Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro pour cette dernière émission de 2021. Et oui, ensuite on sera de retour après une pause pendant le temps des fêtes. On sera de retour le 7 janvier 2022. Il va falloir s'habituer d'ailleurs à dire la nouvelle année, mais ce sera un exercice pour lequel on aura quelques semaines pour se le mettre en bouche. Mais d'ici là, ben, pour finir 2021, j'ai choisi de le faire en belle compagnie, puisque je suis attablé avec la gang du Club de lecture. Alors, je fais une tournée de salutations. Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir tout le monde.
Édouard Tremblay, bonjour.
Salut Raymond, salut tes auditeurs.
Et Jérôme Vermette, bonjour.
Salut tout le monde.
Alors, évidemment, on est ensemble pour parler BD comme à l'habitude. Et je rappelle la formule pour ceux qui n'ont pas l'habitude de plonger avec nous. Alors, la formule pour l'année 2021-2022, c'est qu'un d'entre nous choisit une thématique et ensuite, chacun, on contribue d'une bande dessinée en lien avec la thématique. Et évidemment, on va discuter de tout ça pendant la prochaine heure. Et pour ce mois-ci, la thématique me revenait. Alors, je ne sais pas de quelle manière vous aviez procédé de votre côté, mais moi, c'était mon baptême de l'air de ce nouveau concept. Et je me suis dit, de quelle BD j'aurais envie de parler? Quelle BD qui va m'essuyer une petite larme, qui va me permettre de méditer un peu sur le passage de l'existence, sur le passage du temps, de prendre conscience de l'éphémérité de notre existence? Et j'ai spoté inopinément un peu de bois et d'acier de Chabouté dans ma bibliothèque. Et je me suis dit, quelle magnifique BD et quelle BD intéressante qui nous amène à prendre conscience du temps qui passe, qui évolue. Et je me suis dit, quel beau thème pour un club de lecture, de voir de quelle manière, à travers différentes approches en BD, on est capable de signifier justement le passage du temps et comment, évidemment, puisqu'on l'a vu au fil des derniers clubs, comment chacun d'entre nous interprète, s'approprie la notion de passage du temps comme tel. Parce que, comme à l'habitude, je pense qu'on a quatre styles, quatre univers radicalement différents. On a des magnifiques BD. On a également Age of Ultron, donc de Bendis, Hitch, Peterson et Pacheco. Donc, ça, c'est une des sélections. Donc, du côté comics, on a Bjorn le Morphire, Naissance d'un Morphire de Thomas Lavacherie et Thomas Gilbert. Donc, le tome 1 chez Rue de Sèvres. Il y a La Guerre éternelle et Libre à jamais. Donc, une magnifique édition intégrale de Marvano et Aldeman. Ça, c'est chez Air Libre et Dargo. Et ma sélection du mois, Un peu de bois et d'acier de Chabouté. Et, vous entendez bien que je suis prêt à en découdre avec les collègues. Commençons peut-être par présenter un peu les albums. Et évidemment, je regarde du coin de l'œil Marco qui a choisi Age of Ultron et lui fait des sourires goguenards.
Malgré ton aversion, Raymond, pour ce qui est des comics américains, quand tu as émis la volonté de vouloir mettre comme thème le passage du temps, la même réflexion s'est venue à moi et a abouti à Age of Ultron, ce passage du temps. Mais dans les deux sens, évidemment. Parce que, dans l'histoire, évidemment, il y a une question de revenir dans le temps, c'est-à-dire qu'on va dans le futur voir un événement qui va être presque la destruction du monde qu'on connaît, presque la destruction des super-héros. Et il va y avoir un voyage dans le temps pour essayer de réparer tout ça. Mais il y a aussi un passage du temps où ces super-héros qui vont avoir la mission de revenir dans le temps vont... on va voir sur eux l'effet du passage du temps parce que quand ils vont revenir, ils vont des fois, parfois, se rencontrer eux-mêmes. Et là, on va voir ces mentalités qui ont changé, ces façons de penser l'avenir et tout ça. Donc, je pense que c'était vraiment, des quatre albums, c'était celui qui collait le plus à ton thème.
De mon côté, j'ai choisi Chabouté, un peu de bois et d'acier. Essentiellement, une histoire toute simple, BD muette, BD extrêmement émouvante, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui nous met du point de vue dans le fond d'un banc de parc et on voit la vie vivre, dans le fond, autour du banc comme tel, au fil de passages récurrents ou non. Et c'est sincèrement, dans le fond, un des plus bels albums que j'ai eu l'opportunité de croiser sur la poésie du quotidien. Disons-le comme ça. Et il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, sinon que c'est un moment absolument méditatif de plonger dans cet album-là. C'est magnifiquement dessiné par Chabouté en noir et blanc. C'est un auteur qui revient sporadiquement, d'ailleurs, au club de lecture. On avait parlé de Moby Dick, entre autres, de son côté. Et sincèrement, la plupart de ses albums, pour moi, c'est un peu des valeurs sûres. Mais celui-là, c'est celui qui m'a le plus touché à date dans la production que j'ai eu l'opportunité de voir de cet auteur. Alors ça, c'est chez Vendouest, d'ailleurs, je ne l'avais pas spécifié tout à l'heure. Et si on continue le tour de table, Édouard Tremblay, toi, tu as pris La guerre éternelle.
La guerre éternelle, hein? Oui, moi, je suis allé directement jouer du côté de la SF. Donc, j'amène, le temps à ce que je pourrais, qu'on pourrait appeler sa dernière frontière, hein? Le temps où le temps devient l'espace et où les deux se confondent dans la vastitude de l'univers avec une connaissance que, je vous avoue, moi, est très étroite de tous ces principes-là, mais on n'en a pas besoin, heureusement, pour aller suivre cette BD-là, La guerre éternelle, qui est une allégorie, en fait. L'auteur lui-même avait déjà vécu, c'est la guerre du Vietnam, et il s'est servi de cette expérience, de ce traumatisme, hein, ils n'ont pas peur de l'appeler comme ça, qu'il a vécu pour, justement, mettre en place cette histoire qui est essentiellement, je veux pas la résumer parce que je veux que les gens, justement, qu'on va avoir l'occasion d'en parler, puis je veux que les gens la découvrent. Mais grosso modo, si je peux la résumer en une phrase, donc c'est l'idée d'un soldat qui part dans une guerre et qui, comme c'est souvent le cas, revient et ne reconnaît plus rien du monde autour de lui.
Et on termine la tournée de présentation avec Jérôme Vermette, qui, lui, a été vers Bjorn le Morphyr. Et on, encore une fois, on est dans quatre registres là, radicalement différents.
Premièrement, tu sais, Bjorn, ça vient du fait que c'est bien connu. Je traite beaucoup sur la Scandinavie des Vikings. Donc, ce Bjorn, c'est une Scandinavie fantasmée, évidemment, très fantastique. Mais pourquoi donc j'ai pensé à cet album-là dans le thème que tu as proposé, Raymond? C'est que le temps il se passe en deux temps, selon moi, là, dans cet album-là, parce qu'il reste toujours que l'écoulement du temps, c'est une des bêtes noires de tout BDS, là, comment le temps du récit doit se passer. Donc, premièrement, on a un récit qui se déroule sur un hiver complet jusqu'au printemps. Et à travers ça également, il y a l'évolution du personnage principal, donc qui est une espèce de... Son histoire devient un peu, ce qu'en anglais on dit, « coming of age », là, un rite de passage, un récit initiatique. Merci, Édouard. Donc, il passe de l'enfant à presque un jeune adulte là, devant les épreuves qu'il doit traverser dans cet hiver assez, presque apocalyptique, qui va le mettre à l'épreuve et faire de lui ce fameux Morphyr, le héros qu'il est destiné à devenir.
Alors, c'est les quatre titres dont on va vous parler dans ce club de lecture dédié à la thématique du passage du temps. Et c'est le moment où on se retourne vers Édouard Tremblay pour savoir comment on commence l'émission maintenant que tout est sur la table.
Déjà, en partant, le temps, et on le voit très bien, justement, parce qu'on tous, on se connaît un peu, on a tous lu des BD, hein, on sait un peu. Déjà, quel thème riche, mais riche en possibilités, hein, parce que le temps, écoute, en même temps, c'est un concept... C'est quelque chose qu'on a harnaché pour nos besoins, qu'on a décidé de mesurer selon nos propres fonctions. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de nous. Je veux dire, le temps, il avance inexorablement. Il suffit de regarder, mon tour de taille ou la chevelure de Marco. On voit bien que le temps passe inexorablement, tu sais. Quoi qu'on y fasse. Mais le temps, et justement, dans la richesse de ce concept-là, je pense que la BD, en plus, se prête très bien à ça. C'est quelque chose qui a une extrême souplesse, quelque chose qu'on peut magnifier, qu'on peut rétrécir, qu'on peut étirer, qu'on peut amener, qu'on peut fragmenter, qu'on peut éclater, qu'on peut transformer à toutes les sauces, parce que le temps, lui, il est là, il est toujours là, il va toujours être présent, peu importe la manière dont on l'aborde. Et comme le disait aussi si bien Jérôme, justement, c'est une des préoccupations que veut pas le BDiste, t'as pas le choix d'avoir, je veux dire, sur combien de temps va se dérouler la BD, quel angle qu'elle va avoir, comment justement je vais ponctuer ça rapidement, lentement, sur la courte, la longue durée et tout. Et donc, dans tout ce foisonnement temporel-là, j'aurais aimé commencer avec peut-être celui que je trouvais peut-être le plus, j'oserais dire le plus pur, ou peut-être le plus fragmenté, ce moment du temps qui continue de s'écouler, mais que l'on fixe comme ça, agrafé sur un banc de parc. Mm-hmm. Bon, tu le sais, moi aussi, j'adore Chabouté. J'avais pas lu celui-là, mais j'y ai retrouvé tout ce qui fait notamment le génie d'un truc comme le New York Trilogy de Will Eisner. Ce même procédé où tout d'un coup, un objet complètement anodin, complètement anonyme, s'anime d'une vie que le temps comme ça va lui conférer, brise l'immuabilité, parce qu'on dirait un banc de parc, tu veux dire de quoi de plus immuable à part une roche qu'un banc de parc, mais comme une roche, si le temps est assez long, il va s'altérer, et c'est la chose là. C'est cette BD-là, au-delà du fait que c'est absolument, absolument savoureux et délicat et fin, et l'humanité foisonnante qu'on va voir hein, autour de tout ça qui est magnifique, mais c'est le temps isolé sur un objet. J'ai l'impression qu'on fragmente vraiment juste le temps pour l'amener sur un point, on le pine quelque part, pour utiliser le terme latin, et à partir de là, tout suit son cours parce que c'est la vie, parce que c'est le temps et que tout doit suivre son cours, qu'on le fixe ou non, le reste tourne autour. C'est absolument, absolument, absolument extraordinaire comme BD.
Il faut d'ailleurs dire, justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Edouard, parce que là, nous, on l'a lu, c'est pas le cas de tout le monde qui nous écoute peut-être, mais cette BD-là, elle est entièrement muette. Il y a zéro texte à l'intérieur. Et c'est le génie de Chabouté de nous faire voir toute cette galerie d'humains qui passent devant le banc de parc, qui viennent s'y asseoir, qui viennent en profiter. Mais là, au-delà, puis là, je m'excuse, Raymond, parce que pour moi, dans cette BD-là, plus que le passage du temps, ce qui m'a marqué, et je ne connais pas les allégeances politiques de Chabouté, mais j'ai eu l'impression de lire des lectures anarchisantes pour moi. Donc, ce qui m'a marqué beaucoup dans l'œuvre de Chabouté, c'est là que ça m'a ému profondément, c'est que, le banc de parc, comme tu le disais, devient comme anonyme, en quelque sorte, un peu immuable pendant la grande partie de cette bande dessinée-là. Les gens s'y rencontrent sans s'en rendre compte. Des fois, ils se tannent un peu, puis ils finissent par se rejoindre et tout ça. Le moment le plus... Un des moments que je trouvais les plus parlants, c'est... cet officier-là qui garde le parc, puis à un moment donné, ben, il est à la retraite, puis il devient ami avec le clochard du coin, puis tout ça. C'est un grand moment pour moi, parce que ce que je trouvais dans cette BD-là, c'est que les humains ont de la difficulté à profiter de la vie quand ils travaillent pour l'autorité, donc on a le garde de parc, mais on a aussi ces espèces d'échevins-là qui passent, puis qui veulent régler le problème, justement, de l'itinérance dans le parc. Et qu'est-ce qui se passe? Ils changent le parc, eux autres, juste le banc du parc. Puis on sait aussi que ça se fait. Les villes veulent cacher l'itinérance de nos jours. Hein? L'urbanisation n'est plus pour les gens qui habitent la ville, mais pour montrer plutôt la richesse de cette ville-là. Donc, on a changé le banc de parc où plus personne ne peut profiter de la vie. Il n'y a plus de rencontres possibles. Le banc n'est plus confortable. On ne peut plus y coucher. Et pour nous faire sentir tout ce moment-là, Chabouté, à travers un album qui est quand même là, de plusieurs planches, là, c'est pas un album de 48 planches, nous a montré presque l'ensemble d'une humanité possible dans une ville. Il y a des enfants, les personnes âgées, les adolescents qui viennent en profiter, puis tout le monde le fait d'une manière vivante sans se déranger outre mesure. Mais les gens de la ville, eux autres, ont décidé que c'était fini, puis ça, c'est ce qui m'a le plus... qui est venu le plus me chercher dans cette bande dessinée-là.
Moi, Chabouté, c'est un homme de peu de mots. Non, mais sérieux, parce que ça, c'est sans texte. Il y avait seul cet album qui raconte l'histoire d'un gardien de phare sans texte aussi. Et son adaptation de Moby Dick, il y avait beaucoup de texte, contrairement à ce qu'on pourrait penser de Moby Dick, de Melville, où là, le texte, où là, Chabouté a choisi d'adapter dans Moby Dick des scènes qui peuvent être considérées comme un peu plus ennuyantes, comme la chasse à la baleine, dépeçage de la baleine sur le bateau. Il a osé faire ça. Il a osé faire ça dans un silence, mais où on entend la mer grâce à sa façon de raconter. Là-dedans, c'était ma deuxième lecture. Évidemment, je connaissais le banc, l'histoire de ce banc de parc. Et comme tout le monde, je focussais sur les humains, mais à ma deuxième lecture, avec ton idée de passage du temps, j'ai focussé sur le banc. Et c'est lui qui subit le passage du temps le plus. C'est lui qui supporte cet ivrogne qui vient se coucher dessus. C'est lui qui supporte les animaux, le chien qui vient pisser sur un de ses pieds. C'est lui qu'on repeinture. C'est lui que, sur lequel on grave ses sentiments. C'est lui qui, à un moment donné, on va finir par remplacer. Et c'est parce que tous les autres humains subissent ce passage du temps comme... Mais cet objet immuable, comme vous avez parlé, cet objet qui ne bouge pas, une roche, mais on peut s'imaginer que lui n'a pas à subir ce passage. Mais non, c'est lui qui subit le plus le passage du temps, parce que au soleil, il décolore, pour ça qu'on leur peinture et tout. C'est, à mon avis, c'est un des plus bels exemples, après Ultron, mais c'est un des plus bels exemples du passage du temps, du passage du temps. C'est, et là, quand on focus sur le bas, et bon, là, sans donner le punch, on sait que cette deuxième vie s'en vient, c'est ce qui m'a le plus touché. À ma deuxième lecture, après avoir focusé sur le banc, c'est ce qui m'a le plus touché, cette fin.
En fait, j'aime bien la notion que tu amènes sur l'objet, justement, parce que pour moi, ça nous donne un référent aussi. Dans le fond, le temps passe, mais il y a des choses qui restent immuables. Et c'est dans les objets, c'est dans les éléments de décor. Et c'est peut-être aussi ce qui nous frappe le plus quand on se promène. Tu parlais de la ville, mais quand on se promène dans la ville puis qu'il y a un quartier qui change, qu'il y a un arbre qui part, qu'il y a un banc qui part, c'est des changements en profondeur, au bout du compte. Donc, il y a cette idée de nous ramener justement vers ce mobilier urbain-là qu'on peut prendre pour acquis peut-être, mais qui est porteur justement d'une grande importance à l'intérieur de la ville. Et je pense que tu amenais, Jérôme, sur la notion des rencontres. Puis pour moi, c'est tellement vrai. Tu sais, dans le fond, le mobilier urbain sert justement d'espace de rencontre, sert de lieu de voisinage, ça devient un lieu en soi. Et ce qui me frappe toujours à chaque fois que je replonge dans cet album-là, c'est la justesse et la simplicité dans laquelle Chabouté nous amène dans une espèce de valse, dans le fond, qui est autour de cet objet-là, de différents types de clientèle, d'individus qui s'approprient ce banc-là pour un moment ou un autre, pour différentes raisons, pour en faire différents usages, certains prolongés, certains récurrents, d'autres très courts, très ciblés. Et comment on nous amène justement d'un humain à l'autre, toujours centré sur l'objet lui-même. Et en même temps, c'est toujours paradoxal un peu parce qu'on a l'impression d'en parler plus longuement qu'il y a de mots justement dans cet album-là, mais c'est comme dur pour moi, de synthétiser exactement l'ambiance, puis l'esprit, puis la dynamique qu'on peut avoir quand on plonge et qu'on se laisse imprégner par ce côté méditatif-là. Et les questions qui suscitent dépendent, j'ai l'impression, du mood dans lequel aussi on aborde la lecture. Tu disais, Marco, puis j'ai focusé sur le banc. On peut le lire comme ça, on peut focusser sur l'humain, on peut focusser sur les rapports d'autorité, on peut focusser juste sur l'alternance des saisons, sur l'usure, sur... plein de choses, et ça va dépendre de ma posture à moi, et parce qu'on me laisse construire en partie le récit, où on laisse assez zone de gris pour que moi je puisse le compléter puis bâtir ma perception de ce banc-là, puis ma manière par laquelle j'aurais aussi tendance à me l'approprier si c'était le banc au coin de ma rue ou dans le parc pas loin de chez nous.
Mais c'est la force aussi du médium, je pense, qui est utilisé. Parce que pour ce passage du temps-là, et c'est la force de la BD, je veux dire, c'est des images. On altère un peu, on grisonne un peu, on détruit un peu, et le temps passe. Imaginez cette histoire-là racontée en roman. Imaginez-vous la dizaine de milliers de mots. Hey, ça serait un roman plate, mais plate à décrire chaque...
Ça serait un assommoir.
Ça serait, oui.
Ça paraît que la même finie, un éditorial.
Mais
considérant que la bande dessinée a parlé 40 ans avant des réalités urbaines québécoises, 40 ans avant Bonheur d'occasion, on peut quand même se le rappeler sporadiquement.
Ah ben voilà, voilà. Mais blague à part, c'est ça, je veux dire, c'est pas quelque chose qui aurait pu se raconter, je veux dire, où ce passage du temps-là aurait difficilement pour être rendu en décrivant avec des mots et tout. Là, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Il y a justement ces petites altérations, c'est ce temps qui passe que Marco décrit, les saisons, bien sûr, que Chabouté va mettre en place. Les gens aussi qu'on voit évoluer en parallèle du banc.
Comme Marco, il dit, on entend ce qui se passe en plus. Il y a de l'action dans cette belle vie, là.
Sans peine, je veux dire, les mots sont complètement accessoires, je veux dire. Parce que justement, quand le personnage principal, c'est le temps, je veux dire, encore une fois, comment tu définis ça? Comment tu vas décrire ça d'une manière concrète? Comment tu vas réussir à rendre justement l'impression d'une durée plus longue ou plus courte? C'est le truchement du dessin. C'est l'impact du dessin. Si on prend quelque chose comme Bjorn Le Morphy, par exemple, je sais, je suis fort comme ça, mais c'est toujours ça.
Je ne pensais pas que c'est là que tu allais.
Non, mais c'est vrai que, aussi, et c'est des détails subtils, mais on le voit justement parce que tu parlais, tu sais, et c'est intéressant, je ne savais pas c'était quoi un morphyre. Bon, je connais un peu, évidemment, aussi la mytho scandinave, mais le morphyre semble vraiment être un bon concept qu'eux acceptent, ouais, qui était vraiment
le héros. Je me demande si ce n'est pas eux autres qui l'ont inventé.
Peut-être, parce que moi, en tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais
au Québec, il y avait horreur l'enfant morphyre.
Oh, hey, c'est le temps que la c'est le temps
il que l'année fait des ça.
Mais donc l'idée de mon en tout cas, bon, l'idée derrière le morphyre ici qui était d'un jeune héros qui a aucune promesse et qui tout d'un coup pour une raison X ou Y se lève et devient le grand héros, devient le grand sauveur. Mais je veux dire, c'est encore une fois là, on a une transition temporelle qui est marqué par le truchement du dessin, c'est-à-dire que là, subtilement, dans les yeux, dans l'attitude, dans la posture de Bjorn, on voit cette transition-là. Et cette transition-là, eux l'expliquent, bon, par les rêves, par cette espèce de suspension du temps, parce que cet hiver-là, c'est du temps suspendu, là. C'est vraiment, tout d'un coup, c'est comme si la Terre arrêtait de tourner le temps d'un hiver.
Quoi qu'il est présenté comme étant très vivant, là.
Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Cet hiver-là est suspendu, ça menace. On dirait que tant que Bjorn n'aura pas atteint, justement, et ça, peu importe la durée, s'il faut qu'il passe par ses rêves, il passe par ses rêves, s'il faut qu'il passe par... Mais c'est cette durée-là, à elle, qui est corollaire de tout le reste, qui est corollaire de... Comment l'hiver va finir? Est-ce que l'hiver va finir? Et où on va s'en aller avec tout ça?
Puis, en même temps, Bjorn est mis en place dans un univers qui a déjà vécu le temps. Et donc, tout ne commence pas par Bjorn. Un peu comme cette bonne vieille époque où Star Wars n'était qu'un seul film, qui commence en pleine action et qui est dans un univers qui a déjà une très longue histoire, puis que l'auteur réussit à nous le faire sentir. Bjorn, son père, est un grand guerrier qui a combattu avec le roi. Quand on rencontre le roi, lui-même, c'est un ancien guerrier, on a l'impression qu'il a lui-même vécu les aventures dans une prequel qui viendra peut-être un jour, tellement c'est à la mode de nos jours. Mais c'est ça, donc le fameux morphyre est lui-même mis en place dans un univers qui ne vient pas de lui, mais dans lequel il doit prendre sa place, donc justement.
En fait, moi je ne connaissais pas cette légende-là et... Bon, mon amour pour les héros et comment ils deviennent des héros là-dedans, ça a un peu rafraîchi tout mon concept, là, genre, tu vas devenir un héros, viens, on va aller s'entraîner pendant des heures et des semaines et des années, et tu vas devenir un héros, et on devient un héros. Là-dessus, Pion rêve. Et là-dessus, le temps suspendu, c'est drôle parce que non seulement dans cette caverne-là, le temps est suspendu, mais on suspend le temps pour son entraînement à devenir un héros. C'est-à-dire, il rêve et la première shot, c'est le vilain est là, puis hop, ça ne marche pas. Alors, il va rêver, il va devenir un peu meilleur. Et tout son entraînement à devenir le héros, toute la première étape du héros, là, genre, se fait par rêve. C'est d'une simplicité monstre. Mais je ne sais pas si la légende fait partie de ça, mais peu importe. Moi, je trouvais que ce temps suspendu du rêve aidait à la construction de ce héros qu'il faut finir par... Et là, à devenir un homme surtout, là, parce que là, voici, mon père, je te donne l'épée, puis là, soudainement, la petite voisine avec qui il est enfermé, et là, il va devenir complètement un homme et un héros à la sortie.
Et ce qui est important de statuer aussi sur Bjorn Le Morphyre, tu parles de temps suspendu vers le rêve, mais même de façon générale, on s'entend que le récit, c'est un huis clos. De bout en bout, je veux dire, on est aussi dans une logique de temps suspendu, d'un jour qui est infiniment répété et où on sent qu'à l'intérieur, dans le fond, on est dans un immobilisme, on est dans une hibernation, dans la première partie du récit. Mm-hmm. Une hibernation agressive, évidemment, dont on essaie de se sortir pour éventuellement se déplacer vers un autre huis clos, mais on saute comme ça, de huis clos en huis clos. Et c'est seulement dans le dernier tiers de l'album qu'on prend conscience aussi du monde dans lequel on se retrouve à travers les yeux du héros comme tel et qu'on découvre aussi l'impact de ce qui s'est passé. Et ma foi, en fait, comme premier tome d'un récit, de le placer dans une action qui est aussi, entre guillemets, contemplative, au bout du compte. Je trouve que c'est un pari qui est intéressant et un pari qui marche parce que, mon Dieu, il s'en passe des choses en ce huis clos-là. Ça reste dynamique. On nous passe, on nous balotte, dans le fond, de réflexion, d'inconfort vers des séquences un petit peu plus animées, un peu plus d'action, avec un rythme qui est quand même assez assuré aussi. Et sincèrement, je trouve, parce que je connais pas, j'ai pas exploré les autres tomes de cette série-là, mais comme premier contact avec cet univers-là, Jérôme, que tu m'as proposé, sincèrement, je trouve que d'un point de vue scénaristique, c'est intéressant et ça se distingue aussi d'autres premiers tomes, d'autres mises en place d'univers, parce qu'on nous limite aussi diablement la perspective face à cet univers-là. On a conscience, comme disait Edouard, que l'univers est là, qu'il existe, mais on en voit, somme toute, très peu.
À la limite, c'est osé, là, d'une certaine manière, mais tu sais, quand tu y penses, c'est logique pour le monde dans lequel ça se déroule. Or, le fait qu'il y a des dragons puis tout ça, là, tu sais, comme, à l'époque des anciens Scandinaves, l'hiver, qu'est-ce qu'on faisait? Rien. On était pognés à la maison, tu sais. Donc, finalement, le récit commence en plein hiver. La famille est prise, puis l'hiver, ça donne qu'il est difficile. Et c'est au printemps qu'on commence à aller à l'aventure, à la guerre et tout ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Et pendant cet hiver-là, comme Marco le faisait remarquer, Bjorn devient un héros à travers les rêves et tout ça. Moi, ma lecture de ça, soit en passant, le bon Morfyr, moi, je suis pas mal certain que c'est l'auteur qui a inventé ce concept-là. Mais ce que j'ai aimé, entre autres dans cette série-là, c'est justement le fait qu'il nous rappelle que ben, les Vikings, c'est pas juste des guerriers, ils avaient aussi une vie spirituelle, hein, tu sais, donc c'était pas des athées, eux aussi, ils croyaient, ils avaient des croyances et tout ça. Exactement, exactement. Et là, ben, l'autre aspect plus BD-stique, ben, par rapport à ce genre de BD-là, c'est le style de dessin. Donc, on n'est pas... je vous ai déjà fait lire Torgal, puis vous savez mon amour pour Torgal, mais on n'est pas du tout dans le genre de dessin à la Rosinski. En fait, à la limite, sur le coup, la première fois que j'avais vu ça, je pensais que c'était John Sfar. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Mais non, c'est vraiment, en fait, puis autant pour le côté jeunesse, ça fonctionne bien, et c'est sincèrement une BD que j'aurais pas de gêne à proposer à mes garçons, dans le fond, dans la mesure où ils sont en âge de lire, mais autant pour un adulte aussi, il y a justement assez de parti pris, assez de volonté de développement de personnages, de cadre qu'on se donne, que, je veux dire, ça fonctionne bien, et en plus, ben effectivement, ça s'insère joyeusement dans la thématique qu'on a proposée également. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur Bjorn le Morfyr, groupe?
Juste un petite parenthèse pour ma part, parce que c'est ce qui m'amenait tranquillement bon vers ma transition, mais on y arrivera. Mais c'est la relativisation du temps. Parce qu'encore une fois, non, mais c'est vrai, parlons d'Einstein et de... La relativisation du temps, tu sais, les gens s'imaginent toujours, c'est tout, les théories, justement, puis la physique et tout, soyez pas leurrés, j'y connais que dalle, là, moi, la physique, je connais rien là-dedans. Là. La relativisation du temps, c'est aussi bête que, des fois, ça a donc bien l'air long. Puis des fois, le temps passe donc bien vite. Mais c'est ça, hein, et c'est justement ce que Jérôme a très bien souligné, et ce que même nos grands-parents aussi vivaient. Là. Vous dire, l'hiver, le temps suspendait son cours. Les jours cessaient de passer. C'est comme on entre dans une période d'alternance de jour et nuit qu'on calcule presque plus. Et encore une fois, je veux dire, ce calcul-là, et il ne faut pas l'oublier, ça me ramène à ce que je parlais au début, je veux dire, le temps, nous l'avons harnaché pour nos besoins. Mais je veux dire, l'hiver, lui, il dure le temps qu'il dure. Là. S'il va être plus long, il peut durer 3 mois, il peut en durer 4, il peut en durer 6. Cette fixation du temps-là, c'est nous, c'est pas lui. Tant donc, oui, qu'on relativise, je disais, hein, qu'on étend, qui change complètement de perspective selon ce que l'on vit, selon justement, est-ce qu'on est, est-ce que autour de nous il y a justement ce foisonnement-là, est-ce que ça fait qu'on a l'impression, est-ce qu'on est en bonne compagnie, le temps passe vite, est-ce qu'on est justement dans un contexte complètement autre où là justement on égrène les secondes, chaque seconde a l'air de durer une éternité. Donc c'est ça le temps, hein, je veux dire, nous on le mesure. Avec une volonté, donc purement humaine, hein, que tout ça soit symétrique, que tout ça soit quantifiable, que tout ça soit. Mais vraiment, je suis content qu'on ait tombé sur ce thème-là, parce que justement, moi, le temps, c'est quelque chose qui m'intrigue bien gros. Quand on déborde justement hors de cette trame temporelle aussi disons, évidemment, que bon, on naît, on avance, on meurt et tout, là, on entre dans le domaine, évidemment, de la pure fiction. La physique, on n'a pas encore prouvé qu'on pouvait retourner dans le temps ou voyager dans le futur. On l'attend encore. Mais, et avec tout ça, vient justement toute une charge de questions philosophiques et de questions éthiques. C'est-à-dire à savoir, bon, est-ce qu'on peut changer le temps? Est-ce qu'on peut changer le passé? Et si oui, dans quelle mesure? Et avec quelles conséquences? C'est cette grande théorie que j'appelle la théorie de Back to the Future 2. Et qui nous amène à Age of Ultron. Hein? Extraordinaire Age of Ultron, n'en déplaise à Raymond. Mais qui soulève justement, et d'une manière quand même très, très dynamique, bien sûr, on a quand même une histoire de super-héros, hein, mais cette idée-là, là, de dire le passé, si on avait la possibilité de retourner en arrière, là, dans quelle mesure on peut l'altérer? Et si on l'altère, c'est des questions qu'on se pose dans tous les films, dans toutes les BD depuis tellement longtemps. Là.
Et je mentionne au passage, puisque je me sens regardé par... en fait, je n'ai pas une grande culture de comics en dehors du cinéma comme tel. Et d'une certaine façon, en fait, je pense que dans notre appropriation d'un médium, il y a toujours des zones de gris ou des zones d'ombre qui, pour une raison ou une autre, ben, on n'a pas encore vraiment exploré. Et pour moi, en fait, j'ai l'impression que je représente le lectorat externe, celui qui n'a pas nécessairement une grande culture de l'univers du comics. Et donc, ce qui fait qu'il y a, et d'autant dans des moments aussi référentiels et truffés, dans le fond, de personnages, il y a une effervescence. Et on sent qu'il se passe quelque chose, on sent l'événement, on sent l'ampleur de ce qui est en train de jouer. Mais pour moi, c'est des récits vers lesquels il faut arriver avec une préparation. Avoir suivi un peu des éléments pour pouvoir apprécier un peu plus avant ce qui est présenté. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu toujours une valse hésitation quand je plonge là-dedans, ce qui n'en dénie pas la valeur.
Non, tout à fait. Je me sens pas, accusé d'avoir placé ça pour te mettre dans le trouble, mais oui, effectivement, je... dès que tu mènes un thème, j'y pense beaucoup. Mais non, sérieusement, un jour, à ton émission, tu m'inviteras, puis je te parlerai d'un ouvrage qui vient de sortir, All to the Marvel, avec un Américain qui nous suggère comment rentrer dans l'univers Marvel et avec une telle facilité. En fait, il y a des barrières à briser. Il y a des barrières à mettre de côté et il y a des plans de lecture facilement accessibles si on se laisse
aller. On se programme aussi en 2022.
Voilà. Pour Age of Ultron, qui cadre parfaitement avec ton thème, d'ailleurs, dans les quatre albums, c'est celui qui colle le plus. L'histoire, c'est ce que j'aimais bien dans le passage du temps, c'est moi, c'était les deux sens. C'est-à-dire que, pour résumer, Ultron est un vilain dans l'univers Marvel et cet événement Marvel qui regroupe tous les Avengers, à peu près les super-héros de Marvel, cet événement-là fait en sorte que Ultron revient à la vie parce qu'il avait été tué, mais c'est pas important. Il a été tué et il revient à la vie et prend possession de tout ce qui est électronique et finit par prendre la gouvernance du monde. Et il en fait une dictature et il finit par détruire à peu près tout ce qu'il y a de super-héros. Il reste une poche de résistance. Et cette poche de résistance va finir par se regrouper et va finir par se dire, écoutez, on a retrouvé dans le fin fond du grenier de Nick Fury la machine à voyager dans le temps du Dr Doom. C'est pas important d'où elle vient, la machine à voyager dans le temps. Elle existe. Elle est là. Et pourquoi le Dr Doom nous l'a laissé, on s'en fout. Donc, tous les super-héros se consultent et font « Et si on peut revenir et qu'on revient à la création d'Ultron? » Ultron a été créé sur papier, dans l'univers papier de Marvel, a été créé par Hank Pym. Mm-hmm. Un des super-héros, c'est Ant-Man ou Giant. C'est celui qui a créé Ant-Man dans l'univers cinématographique.
C'est Iron Man,
oui. Oui, c'est Tony Stark. Mais donc, là-dedans, c'est Hank Pym. Donc, là, il se forme une espèce de petit comité, genre, on retourne dans le temps, puis on tue d'où le Hitler. Tu sais, si tu reviens, tu sais, la fameuse question, Edouard parlait d'éthique, et tout le monde se pose la même foutue question, tu revoyages dans le temps, on va tuer Hitler. Mais là, tu vas pas tuer un méchant qui a exterminé 6 millions de Juifs, là. Tu vas tuer un bon gars qui a juste créé la machine qui va exterminer à peu près tout le monde. Donc, c'est ça, Age of Ultron. C'est que Wolverine et Susan Storm, la femme invisible des Fantastic Four, qui a perdu son mari à cause d'Ultron, qui a perdu son frère à cause d'Ultron, vont voyager dans le temps et vont aller voir Hank Pym au moment où ils se posent des questions sur l'intelligence artificielle, parce que Ultron, c'est ça. Ils vont se poser des questions et là, quelqu'un qui a tout perdu à cause de ça et quelqu'un qui est enragé parce que là, il en a marre, puis bon, on connaît un peu Wolverine. Comment... Et là, tout se joue là. Il se joue une première fois. Parce que ce passage du temps, une fois que tu l'as ouvert avec la machine à remonter le temps, tu peux le faire deux fois.
Oui, on revient au principe Back to the Future. En fait.
Voilà. Et là, le Wolverine d'une certaine époque parle au Wolverine d'une... Et ça, c'est un beau moment du truc. Il parle au Wolverine qui, là, vient se venger. Il fait, non, tu peux pas faire ça, là. Il va y avoir des... Et c'est ça. Ce passage du temps dans les deux sens, cette espèce de moment moral et éthique, parce que il en vient à ça. Cette question qu'on se pose à... si on a... Tu sais, le temps est immuable, le temps est inébranlable, le temps avance, puis on fait juste jouer dedans, là... Je veux dire, je perds mes cheveux, oui, mais je peux rien faire là-dessus. Là. Puis lui, son tour de taille à Édouard est exponentiel.
Et ce qui est magnifique, en fait, c'est de voir, puis quand on en parle, c'est toujours extrêmement riche parce que on part, puis ça nous ramène un peu aux super-héros comme mythologie moderne. Et l'usage, l'utilité des mythes à une certaine époque, c'était de mettre de l'avant, en exergue des réflexions morales et le reste aussi, de donner une certaine guidance là-dessus. Et on l'a vu beaucoup avec les histoires de super-héros qui ont remplacé un peu cette mythologie-là. Et tout ce que tu dis, au bout du compte, ça démontre qu'il y a quand même une belle richesse d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue réflexion. Ce n'est pas des choses qui sont garochées, qui sont mises n'importe comment non plus. Et je pense qu'effectivement, ça sous-tend, puis ça, c'est quelque chose qui reste perméable à la lecture de cet album-là à travers tout le reste. Mais le reste, parfois, peut nous mettre en position de déséquilibre aussi.
C'est le questionnement, oui, évidemment, que nous amène, hein, et tu l'as bien souligné, que c'est des mythologies. Et il faut voir ça comme des mythologies, il faut voir ça comme des paraboles, comme des leçons. Parce que même l'approche aussi, quand on écoute des gars comme Stan Lee ou des choses comme ça, c'est un peu ça aussi qu'eux voulaient, sans dire être moralisateur, mais des fois donner juste des leçons de vie, des directions dans la vie, comment se débrouiller, comment dealer avec certaines situations. Mais là, évidemment, là, on est avec le temps, on est avec quelque chose, encore une fois, qu'on le répète, qui est immuable et tout. Et je trouve que, justement, un récit comme « Age of Ultron », de par, justement, tout ce que ça implique d'altérer le temps, de par toute notre capacité à voir le fin mot, tout ça, ça nous ramène, justement, à cette humanité-là. À dire, regardez, même avec la possibilité d'altérer le temps, On ne sait pas quel impact ça pourrait avoir. On ne sait pas. On est inféodé à ça. On est beaucoup trop minuscule dans tout ce grand déversement de temps-là pour dire arriver à quelque chose comme ça. Et c'est ce qu'enseigne Age of Ultron. Et c'est ce qu'enseignent les super-héros. On va dire, c'est de nous ramener à des leçons de base, à des leçons dans la même mesure que la mythologie le faisait, et de nous dire ici par rapport au temps, OK, imaginez, peut-être un jour, qui sait, hein, avec la folie de la science et tout, on pourra peut-être altérer ou intervenir, ne serait-ce que d'une manière minuscule, infime là-dedans. Mais pensez, est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'il va y avoir à ça des conséquences qui seraient irréparables?
Et se rendre compte finalement que les super-héros de l'univers de Age of Ultron, je ne sais pas c'est Earth numéro quoi, là, manifestement dans cet univers-là, Terminator n'a jamais joué.
Donc, mais oui, tout à fait, en fait. Et encore une fois, quand on évidemment, quand on parle du poids écrasant du temps, et comme je disais dans Age of Ultron, hein, on le sent bien, on sent la menace derrière, on sent le risque qu'il y a à jouer avec lui. Mais même nous, comme petits humains, évidemment, qui n'avons même pas justement, ce pouvoir d'altérer-là, eh bien là, un coup qu'on est précipité dans les extrémités du temps, c'est-à-dire dans ce moment où le temps devient l'espace, où l'espace devient le temps et où moi, je ne suis plus capable d'expliquer parce que je ne connais rien en physique.
Faudrait que tu lises le truc de Mathieu Burnier sur...
Ouais, entre autres. Et c'est ce qui m'amène, sans grande surprise, voilà le Grand Prix, à ma dernière transition de l'année. Bravo, Édouard. Non, mais quand même. Justement, écoutez, la guerre éternelle, où là, on a, justement, on a ce que je pourrais appeler des victimes du temps, dans la mesure où on est tous un peu victimes du temps, mais là, on a vraiment une victime. Je vous mets juste un petit peu le contexte pour que vous compreniez un peu. Imaginez que là, on est encore, évidemment, on est en guerre, hein, on est des humains, sauf que là, on est en guerre avec un peuple extraterrestre. Et donc, juste se rendre sur les lieux de la guerre, c'est des années et des années et des années. Donc, on va... des années-lumière. Hein. Et on va cryogéniser les soldats pour les envoyer là-bas. Mais ça, c'est seulement le début. Et au début, comme ça, nos gars, ils vont, ils mènent leur guerre et ils reviennent victorieux. On se dit, mon Dieu, ben ça y est, la BD est faite. Hein. Ils sont allés, ils ont gagné. Mais quand ils reviennent, ils se rendent compte qu'évidemment, à cause de cette distorsion, à cause de cet espace-temps-là, de cette relativité d'Einstein et bon, tous les principes physiques, il s'est écoulé pendant qu'eux se battaient pendant quelques mois, plus de 200 ans. Et donc, le monde qu'ils vont redécouvrir, lui, a complètement changé et complètement ailleurs. Enfin, on leur dit même, écoutez, la guerre, ils sont tout heureux d'être victorieux de guerre. Le monde les regarde comme des étrangers, justement comme des aliens. Vous sortez de où, cette guerre-là? Ça fait deux siècles qu'elle est terminée, qu'on se voit plus, on est en paix avec eux. Les aliens nous ont amené plein d'apports culturels et sociaux et autres. Et quelle extraordinaire allégorie du soldat qui part, qui s'inscrit dans une société, qui va à la guerre, qui revient et qui ne se retrouve plus du tout dans le monde qui l'entoure.
Et je fais une parenthèse avant de passer la parole aux collègues, simplement pour te remercier, Édouard, parce que je pense que pour moi, dans le fond, le club de lecture devient aussi beaucoup un outil, je pense, pour découvrir des BD. Je pense que c'était Marco Amané qui m'a fait découvrir Black Sad, que j'avais complètement échappé pour une raison nébuleuse et qui est un univers absolument magnifique duquel je suis tombé amoureux. C'est magnifique comme BD dans la narration, dans la richesse scénaristique, dans ces allers-retours-là. C'est juste hallucinant. Et surtout que tu ne le vois pas venir non plus, ce renversement-là. T'sais, il te l'explique bien, tout est clair, la science de cette série-là est définie clairement et tu pourrais normalement y penser, mais tu es quand même surpris. Finalement, comme toi, tu suis le point de vue d'un soldat, ben il y a toujours, dans le fond, son regard à lui que tu portes sur le monde. Donc, ce qui fait que tu le découvres aussi par spasme comme ça. Donc, dans la construction, c'est magnifique. La question au départ, les réflexions qui sont supportées là-dedans sont pertinentes. Et sincèrement, c'est le genre d'album où tu dis, ben OK, j'ai pas beaucoup de temps, je vais me lancer dans une première partie. Puis finalement, tu te retrouves de l'après-midi au complet. Puis je veux dire, le reste de ta programmation de journée va prendre le bord parce que c'est juste trop bon, cette BD-là.
Ah, tout à fait. Puis c'est, en fait, là-dedans, tu as les meilleures qualités de la science-fiction, la hard science-fiction. Là, Joe Haldeman, je pense que c'est basé sur un de ses romans, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc, tu retrouves tout ce que tu as de meilleur dans la science-fiction, c'est-à-dire que l'auteur a un récit prenant, mais que toute la science dont elle fait part, au niveau de la physique, quand tu parles de la relativité du temps, quand tu passes dans le trou noir et tout ça, dans comment ils appellent ça déjà, j'ai oublié le nom, l'horizon, en tout cas, sur l'espace des trous noirs, là, où le temps s'arrête, là, en tout cas. tout ça, tout fonctionne, tout comme le fait que quand tu reviens dans le temps, tu ne changes pas les choses, là, tu sais, il y a des temps parallèles qui se créent. Donc, tout ça fonctionne, puis sans que ce soit compliqué. Parce que, ultimement, et ça, c'est l'autre aspect qui fait que c'est un excellent récit de science-fiction, c'est l'aventure qui s'y déroule. Au début, quand j'ai commencé à lire, ça m'a rappelé un peu la lecture de Allo Jones, de Alan Moore, qui se fait embarquer dans toutes sortes d'affaires sans qu'elle n'y puisse plus rien, puis elle-même devient une soldate, puis elle finalement devient une héroïne, puis elle subit son sort et tout ça. Mais ça va plus loin. Là, éventuellement, là, il s'intéresse à Haldeman, et c'est là que c'est son autre côté qui devient intéressant. C'est que lui, comme tu le disais, il a fait la guerre du Vietnam, et on sent l'expérience du soldat qui revient et dont la société ne veut plus nécessairement faire quelque chose avec en tant que tel au départ. Ça, c'est la première partie. En fait, à la limite, les batailles ne sont là que pour montrer le désarroi du soldat devant l'ampleur que prennent les technologies pour détruire son prochain. Et éventuellement, il finit par s'intéresser, et c'est là encore l'allégorie sur le Vietnam ou n'importe quelle autre guerre avec un étranger. On rentre en guerre avant de comprendre l'ennemi, puis on se fait rentrer dans la tête que cet ennemi-là il mérite de mourir, parce que sinon, on ne le tuera pas. Hein? Fait que c'est tout ça. Puis la deuxième partie, on change complètement de registre. La guerre est finie. Et là, l'auteur nous amène dans une réflexion puissante où il lit le temps et Dieu. Puis là, il va rejoindre non plus les physiciens, mais Saint-Augustin, qui lui-même, déjà à l'époque, réfléchissait sur le temps et Dieu, qui faisait sentir sa présence à travers ça. C'est absolument fabuleux et jamais ennuyant comme bande dessinée.
Mais toute la prémisse tient sur, en tout cas, la guerre contre un ennemi extraterrestre.
Ouais, tout à fait.
Ça tient de Starship Trooper, je ne parle pas du film, je parle du roman. Et aussi de la stratégie Enders de Scott Card, où là, l'ennemi, il est à 1 million d'années-lumière et on ne le connaît pas, mais c'est un ennemi. Alors, toute la stratégie, toute la première partie, effectivement.
Il parle même de l'évolution de l'ennemi aussi.
Oui, c'est ça. Mais,
il pense à tout ça.
Mais, et tous les autres trucs que je viens de citer, mais celui-là, l'ennemi a comme évolué en entendant que les soldats dorment. C'est ça qui est intéressant dans Haldeman. Comme lui a vécu le Vietnam et quand il est revenu, effectivement, son rapport à la société était plus le même. La question du temps, mais bon, il y avait peu de temps quand il est revenu, mais là-dedans, il y a 200 ans, mais l'évolution de l'ennemi a changé et c'est ça aussi qui est véhiculé dans cette histoire.
Oui, puis ils peuvent se le permettre parce que justement, le temps passe pour nous, dans le fond, rapidement. On est quelques mois avec le personnage, après ça, on est cryogénisé, on saute, on fait des sauts d'époque comme ça et donc on se retrouve, nous aussi, peut-être un peu désarçonnés et constamment en train d'essayer de retrouver puis de comprendre où en est cette société-là. Et on comprend peut-être d'autant mieux le désarroi de ce personnage-là, de ce soldat-là. Je pense à tout l'épisode, justement, où il revient sur Terre, où il se rend compte que, ben, finalement, sa pension de soldat, bien qu'en accumulée pendant 100 ans, mais c'est peut-être pas assez pour vivre le reste de sa vie, et qu'il cherche, qu'il essaie de voir qu'est-ce qu'il pourrait être, et qu'il réalise que la société a décidé que lui était un soldat, et qu'au bout du compte, il serait jamais autre chose, qu'il ne pourrait jamais être autre chose, et que là, il est obligé de plonger là-dedans. Le moment poignant où, dans le fond, la vie le sépare de son amoureuse, on se demande si, au travers des années et du temps, ils vont réussir à se retrouver. Je veux dire, il y a tellement de choses là-dedans. C'est d'une richesse. Je veux dire, chaque section, chaque épisode nous amène vers des thématiques, vers des relations, vers une manière d'aborder l'impact, dans le fond, des règles que l'univers s'est donné et les amener de différentes facettes, avec différentes conséquences, avec différents enjeux psychologiques, avec différentes perceptions. Je veux dire, c'est hallucinant comme album. Là. Et de lire l'intégrale, c'est sûr que ça donne un coup de pouce parce qu'on la voit tous. Mais c'est hallucinant
d'ailleurs,
ce qu'on fait avec ça.
D'ailleurs, la scène que tu parlais, là, où il se sépare de son amoureuse, le temps se fait extrêmement sentir à ce moment-là. Donc, eux, ils savent, le personnage, la fille, utilise une expression temporelle extrêmement puissante qui va tout dire. Moi, mais si vous nous séparez comme ça, moi, je vais partir, on va créer une faille qui va faire, dans le temps, qui va faire en sorte qu'on ne pourra plus se retrouver. Donc, le mot de la faille, là, tu sais, une déchirure, littéralement. Et ils décident, le dernier jour qu'ils ont, ils en profitent. Et la planche qu'on voit, c'est littéralement le temps qu'ils passent ensemble. Et tout ce temps-là qui est riche, ils vivent là, il faut qu'ils vivent à l'intérieur d'une journée. Presque une vie d'amoureux, là, finalement. Elle est effectivement très, très chargée. Dans une bande dessinée où on ne voit pratiquement que des gens s'entretuer ou trouver des manières de s'entretuer, ce moment-là, il est d'une beauté hallucinante.
Mais ça nous amène encore à la relativisation du temps. Hein, comment, justement, on voudrait que celui-là ne se termine jamais? Comment qu'on voudrait que ça se perpétue? C'est, je pense, aussi une des intentions magnifiques de la BD, au-delà de ça, c'est de nous ramener à une... je pense, en tout cas, à une certaine humilité par rapport à ce temps-là. Parce qu'encore une fois, comme je disais, tu sais, on a l'impression, comme humain, hein, on a arnaché la nature, on contrôle le climat, et puis bon, on voit les conséquences que ça a, on est en train de tout scraper, tu sais. Le temps, on ne peut pas l'arnacher comme ça, hein. il est insaisissable, il est là, il est autour de nous. Mais on a cette impression... avec nos montres, avec nos horaires, avec nos réveils matins, avec nos 9 à 5, avec nos... qu'on a pris le contrôle de ce temps-là, qu'on l'a inféodé à ce qu'on avait besoin, qu'on l'a tourné de telle manière que, bon, si on a la nuit, le jour, les années, tout, nos mois, nos fêtes, on ponctue tout ça. Et là, tout d'un coup, on arrive à quelque chose comme ça, comme la guerre éternelle, on dit, non, attends un petit peu, là, t'es t'es le grain de sable du grain de sable dans l'univers, là. Prends-en conscience et prends conscience que cette immensité temporelle-là te dépasse complètement. Et c'est un concept, et bon, Jérôme et Raymond aussi, vous avez dû sûrement aussi en entendre parler, parce qu'on en discutait beaucoup dans les évidemment, les cours d'histoire, hein, de la longue durée, de la courte durée, de la moyenne durée, de, justement, comment ce temps-là, encore une fois, peut être tellement, nous semblait tellement intense pour nous, parce qu'on pense, bon, à la civilisation humaine. La civilisation humaine, c'est 50 000 ans. En regard de l'histoire de la Terre, c'est la fraction d'une fraction de seconde. Si, disons, l'histoire terrestre dure une minute, là, on est le millionième de seconde de tout ce qui s'est passé. Mais pour nous, évidemment, c'est tout le temps, c'est toute l'humanité. C'est pour ça que je suis content qu'on ait ce thème-là, comme je disais, je sais pas si je t'en fous ou quoi, mais le temps, le temps, mon gars, c'est parce que c'est tellement, c'est ça, c'est tellement relatif, c'est tellement altérable. C'est tellement quelque chose que justement, qu'on maîtrise. Parce que là, tu sais, dans les BD, on l'a, là. On l'a, le temps, là. Il a été transformé, il a été magnifié, il a été twisté, il a été renversé d'avant, d'arrière et tout. Mais en même temps, il reste complètement insaisissable, complètement hors de nous, t'sais.
Et c'est vrai que j'ai pas suivi de cours d'histoire comme vous trois, mais j'ai senti ça dans Age of Ultron.
Alors, vous aurez compris, encore une fois, je pense, quatre lectures enthousiasmantes qu'on s'est proposées et qu'on vous propose aussi, si vous voulez poursuivre, évidemment, avec le club de lecture, si vous n'avez pas lu les albums, évidemment, les quatre sont disponibles en librairie. Évidemment, on vous encourage à vous plonger dans ces récits-là. Je rappelle les quatre titres. Alors, on a parlé de Bjorn le Morfyr, de Thomas Lavacherie et Thomas Gilbert, c'est chez Rue de Sèvres. On a parlé d'Age of Ultron, c'est chez Marvel Comics. On a parlé de Chabouté, un peu de bois et d'acier chez Vent d'Ouest et de cette magnifique Guerre éternelle, ainsi que Libre à jamais. D'ailleurs, si vous voulez le chercher en édition intégrale, donc de Marvano et Aldeman, c'est chez Air Libre et Dargo. Alors, ben nous, c'est ainsi qu'on termine l'année 2021 ici à La Vie en BD. Je remercie évidemment mes trois collaborateurs pour ce club de lecture, Marco Duchesne, Édouard Tremblay, qu'on peut retrouver d'ailleurs inopinément chez Pantoute, Jérôme Vermette également, lecteur passionné comme moi. Et eh bien, on vous souhaite un bon temps des fêtes, une bonne année. On espère qu'il y aura plein de belles BD sur votre album. Je reviendrai pour ma part en début d'année prochaine avec mes coups de cœur 2020, T1. Je me donne le temps des fêtes pour compléter les lectures que je n'ai pas eu le temps de faire pendant l'automne et pendant l'année. Et ben, on se retrouvera également en club de lecture au fil du mois de janvier et par la suite. Et je vous rappelle que si vous avez peine de Vie en BD, bien, vous pouvez toujours aller faire un tour sur lavieenbd.com. L'ensemble des émissions des 11 dernières années sont disponibles en balado-diffusion. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Passez un joyeux temps des fêtes et on se dit à l'année prochaine.